La nouvelle est tombée tôt ce matin en raison du décalage horaire. Le groupe immobilier chinois Evergrande, plombé par une dette de plus de 300 milliards de dollars, a suspendu ses opérations sur les marchés de la bourse de Hong Kong sans donner aucune raison. Un risque de faillite qui fait trembler la planète entière, mais dont les médias français parlent peu. Nous sommes en compagnie de Didier Testeau, fondateur de la Bourse et la Vie TV, que vous retrouvez tous les samedis dans le grand matin week-end de Jean-Marie Bordry. Bonsoir Didier.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'Evergrande ?
Ah bien, c'est tout simplement le deuxième plus grand promoteur immobilier chinois, hein. Donc c'est un mastodonte, hein, comme on dit, et qui effectivement, comme vous l'avez dit, est au bord du gouffre. Alors on ne sait pas si la faillite va arriver ou pas, mais c'est un groupe qui a été étranglé par cette dette dont vous avez rappelé le montant et qui se bat depuis plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêt et ses livraisons d'appartements. Vous avez peut-être vu, en tout cas pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, eh bien des manifestations devant le promoteur, hein, des manifestants réclamer tout simplement leur argent, puisque des Chinois ont investi dans l'immobilier et ça a été considéré comme une valeur refuge, hein, comme chez nous en Occident. Simplement, bah, effectivement, pour accéder à la propriété, ils font comme on le faisait avec des promoteurs, ils ont déposé du cash, mais ils ne sont pas sûrs aujourd'hui que leurs appartements soient construits. Donc c'est un vrai sujet. Et le modèle d'Evergrande, hein, reposait sur cette prévente d'appartements en construction dans le cadre de cette frénésie. Mais le groupe, il a investi un peu partout. Alors on l'a retrouvé dans des clubs de foot, oui. des parcs d'attractions, l'eau minérale, les voitures électriques et même, j'ai vu, l'élevage de cochons ou le domaine de l'assurance. Voilà. Le problème, c'est que les rentrées d'argent qui ne suivent plus, ça a alerté les investisseurs. Et donc maintenant, tout le monde se tourne vers le gouvernement chinois. Qu'est-ce qui va se passer ?
Philippe Bilger.
Didier Testeau, considérez que ma question est celle d'un profane absolu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer clairement pourquoi cette catastrophe peut être un danger pour l'ensemble du monde ?
Alors ça, c'est effectivement le risque qu'il y a aujourd'hui, parce que simplement la société chinoise en question, même si on parle de la Chine et donc normalement que des entreprises chinoises, eh bien elle a émis des titres, elle est cotée à la bourse de Hong Kong, hein, et il y a effectivement certaines banques internationales qui ont pu lui prêter, donc ce qu'on appelle des produits structurés qui sont relatifs à la société, qui ont pu être certaines grandes banques internationales. Il y a eu un certain nombre de noms qui ont été cités, et c'est toujours le même sujet, si vous voulez, Philippe, c'est-à-dire qu'en partant d'une société qui a priori était chinoise, mais elle est sur des marchés financiers où d'autres peuvent la financer, et à un moment donné, bah, effectivement, si elle ne peut plus payer, on va dire, oui, mais qui a prêté à cette société chinoise ? Et on va peut-être retrouver une grande banque. C'est un peu le même schéma, effectivement, qu'on avait eu en 2008 avec d'autres sociétés. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être moins de prêteurs que, par exemple, du temps de Lehman Brothers en 2008, où il y avait des banques occidentales, il y avait des banques américaines. Là, majoritairement, effectivement, il va y avoir peut-être des Chinois. Et d'ailleurs, il y a une solution chinoise qui est en train d'être élaborée, puisque vous imaginez bien que la Chine va essayer de régler son sujet Evergrande de manière interne, peut-être en faisant racheter par une autre société. C'est ce qu'on a pu voir dans les médias chinois. Ils vont peut-être être rachetés par d'autres Chinois, si vous voulez. Mais effectivement, le risque, c'est la peur, c'est la contagion, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres gens qui aient acheté effectivement des actifs de cette société et qui naissent, ces actifs valent zéro, puisque même si elle ne fait pas faillite, si les actifs sont dépréciés, ça peut avoir un effet boule de neige.
Le cours de l'action a baissé de plus de 80%. Hein. Françoise Degois.
Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont arrêté la cotation. Oui, en fait, on peut dire, Didier, bonsoir, c'est Françoise Degois. On peut dire que de toute façon, c'est tout le modèle chinois qui va être remis en question. C'est ça le problème, parce que le modèle chinois, d'une certaine manière, c'est lui qui pousse au paroxysme l'idée de la spéculation et de la dette. Les entreprises sont endettées, mais parce que comme on prête aux riches, en réalité, on prête aux Chinois. C'est pour répondre à la question de Philippe Bigère. Pourquoi est-ce que c'est mondial ? Parce qu'à un moment donné, vous avez
la Chine
également...
est la banque du monde.
La Chine, elle nous a sorti. Hein, la Chine a prêté ses fonds souverains, je rappelle, dans la crise de 2008 pour soutenir les économies occidentales.
Mais la réalité, elle en avait besoin pour faire tourner ses usines.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre le modèle chinois, c'est la dette et la spéculation. À partir du moment où il y a la confiance se rompt, je suppose qu'on va être d'accord là-dessus, c'est ce qui se passe avec Evergrande, et à partir du moment où ça se rompt, eh bien, il est là le danger. Le danger est domino, en réalité. C'est ça ?
Didier Testeau et après Pierre Lissia.
Oui. En fait, c'est un vrai test pour le gouvernement chinois, parce que c'est le paradoxe quand on parle de la Chine, parce qu'on parle du Parti communiste chinois, mais effectivement, moi, je lis une lettre sur la Chine toutes les semaines, et dans cette lettre, vous avez un nouveau milliardaire. Donc, toutes les semaines, vous avez un nouveau milliardaire. Mais en fait, c'est un vrai test pour le gouvernement chinois, pour limiter l'impact social de cette affaire, parce que finalement, le capitaliste qui met en œuvre, il en a besoin. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de croissance en Chine, et c'est un des autres sujets, vous savez qu'on a parlé de crise énergétique, elle est très grave.
Mais elle est pas, bien sûr, moi j'ai des amis qui habitent en Chine, bien sûr.
Voilà, c'est en train de l'économie chinoise est en train de freiner. Donc là, les économistes sont en train de dire attention, et ça a un impact bien sûr sur le monde entier, mais on sait que le Parti communiste chinois, il ne tient que parce que il arrive effectivement à développer des entreprises, développer des secteurs, à faire de la croissance, à enrichir effectivement le peuple de manière le plus possible. Mais si cette croissance diminue, elle va pas s'arrêter, mais si au lieu d'avoir 6-7%, on n'a plus que 4%, eh bien ça peut créer effectivement des mouvements. Et on est un peu à cette frontière, c'est-à-dire qu'il y a des vraies questions sur est-ce que l'hypercroissance de la Chine eh bien, ne va pas commencer à devenir simplement une croissance, et comment le gouvernement chinois va gérer ça. Vous l'avez vu sur les valeurs technologiques, on en a parlé, moi j'ai eu l'occasion d'en parler, il a complètement contrôlé les valeurs technologiques, par exemple récemment, parce qu'il s'était aperçu que peut-être les jeunes passaient un peu trop de temps sur les jeux vidéo. Donc il est en train d'essayer de contrôler à nouveau, et là le Parti communiste chinois a dit les logements servent à se loger, pas à spéculer, maintenant, après avoir laissé
Pierre Licia court et Didier Testo
court. Ça revient un peu sur ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure. Est-ce que on peut pas considérer que la Chine étant un monde dans le monde, l'onde de choc d'une éventuelle déflagration de ce géant chinois ne pourrait pas être cantonnée, si vous me permettez le mauvais jeu de mots, à la Chine uniquement? Et est-ce que cette entreprise avait non seulement des prêteurs à l'international, ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'elle avait aussi investi dans d'autres entreprises européennes, dans de grands groupes internationaux, et qui aujourd'hui pourraient être menacées?
Ça, on n'a pas toutes les informations bien sûr de ce côté-là, mais la plupart de ceux qui parlent des marchés aujourd'hui considèrent qu'effectivement ça peut être cantonné, comme vous dites, mais il n'y a aucune certitude. Et comme à chaque fois, vous savez, on est dans les mois d'octobre, on n'aime pas trop les mois d'octobre quand on suit la bourse, hein, c'est les crises de 29, c'est celle de 2008. Oui. Donc à chaque fois, on a peur que ça puisse effectivement partir en vrille, comme on dit. Bon, là, pour l'instant, les investisseurs parient sur le fait que le gouvernement chinois va régler le sujet, et que donc on aura une petite onde de choc et pas un choc mondial.
Didier, le gouvernement chinois, a priori, n'a absolument pas l'intention de régler le sujet. Ils ont demandé, j'ai vu la dépêche AFP, où ils demandent aux banques de réguler le marché immobilier. L'autre problème, c'est les routes de la soie. Hein. Le projet pharaonique fou de Xi Jinping, en réalité, la Chine se retrouve, pour prendre du terrain, se retrouve dans la position d'un pays qui prête énormément à des pays extrêmement endettés, qui ne sont pas non plus en mesure de rembourser. Attention à cet équilibre-là, hein, vraiment.
Ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la dette en Chine, en fait, c'est le même que celui des États-Unis, parce que aux États-Unis, ils sont en train de discuter entre républicains et démocrates pour remettre le plafond de la dette.
Créer une pièce de 1 trillion de dollars.
Ouais.
C'est exactement ça. Et finalement, la Chine a le même sujet aujourd'hui de la dette, un vrai sujet. Et là, ils ont simplement dit aux gouvernements locaux, attention, peut-être que le géant va s'effondrer et nous, on renflouera pas. Donc préparez-vous à
Didier,
ce que ça
fasse. Je voudrais vous poser une question pour une réponse hyper courte. Est-ce que l'affaire Evergrande peut faire exploser la bulle immobilière chinoise?
Ah bah ça va le faire, parce que vu le nombre de gens qui sont concernés en Chine, vu la taille du groupe, oui, ça va le faire. Après, effectivement, là-dessus, va y avoir un vrai choc, et ça peut avoir, je pense que pour l'instant, les analystes sont en train d'essayer de mesurer quel va être l'impact sur le ralentissement économique chinois à cause de ça.
Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Vous le retrouvez d'ailleurs tous les samedis dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Bordry.